CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Bonjour, bonjour. Ce MAG du pays Midi-Quercy aujourd'hui à Parisouf, en visite chez la brasserie Baltringue pour goûter de sa bière bio et locale dans la chronique Les Circuits Courts. Bonjour. Mais avant ça, et peut-être pour vous y déplacer, ce MAG à propos de la conciergerie de mobilité rurale qui se met en place sur le PETR. Du pays Midi-Quercy à propos de mobilité. Une conciergerie de mobilité rurale est en train de se monter sur le territoire. On va expliquer un petit peu en quoi ça consiste avec Lisa Galtier. Bonjour.
Bonjour.
La chargée de mission mobilité du PETR Midi-Quercy. Et Mathieu Albert, bonjour.
Bonjour.
Le responsable du développement économique du territoire pour la CCI. La CCI a été mandatée par le PETR Midi-Quercy pour mener une étude, un petit peu une étude de préfiguration, pour voir à quoi pourrait servir une conciergerie, comment et surtout qu'est-ce que c'est.
Cette étude de préfiguration qu'on a mandatée à la CCI s'inscrit dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité, pour lequel le PETR est lauréat depuis mars 2019, donc dans l'objectif de développer un projet de conciergerie de mobilité rurale. Ce projet est né d'une volonté d'améliorer les mobilités alternatives sur le territoire, suite notamment à l'élaboration du plan climat, qui a permis de révéler que le secteur des transports était la première source de consommation énergétique et le second émetteur de gaz à effet de serre du territoire. Et donc, pour répondre à ces enjeux environnementaux, le PETR a candidaté à cet appel à manifestation d'intérêt France Mobilité, dans l'objectif de développer un projet de conciergerie qui consiste donc à développer des services de mobilité tout en s'appuyant sur les acteurs économiques du territoire pour valoriser l'économie, mais aussi développer des services de mobilité.
Et c'est là qu'intervient la CCI.
Voilà.
Puisqu'en fait, l'idée c'est de développer un réseau au plus près du territoire et de l'usager quelque part. Et donc la proposition qu'a fait la CCI au PETR à Midi-Quercy, c'est de voir si des commerçants ou des prestataires de services seraient d'accord pour porter, on va dire, le réseau du maillage secondaire d'une conciergerie au niveau du milieu rural, voire ultra-rural.
C'est-à-dire ?
Alors la conciergerie, en fait, comme on l'a défini, il y aurait trois niveaux de services qui pourraient être proposés. Le premier niveau, c'est simplement une plaquette d'information pour indiquer à l'usager quels sont les services qui sont à sa disposition sur un Midi-Quercy. Et quels sont les interlocuteurs qui peuvent le renseigner de manière plus approfondie. Deuxième niveau de service qui est proposé, c'est le commerçant ou le prestataire de service qui, en fait, va pouvoir renseigner et accompagner l'usager dans ses démarches de mobilité. Un exemple concret, la personne vient, ne sait pas prendre un billet de train pour faire Cossa de Cahors. Le commerçant va l'aider à faire ses démarches en ligne pour pouvoir prendre son billet de train. Et troisième niveau de service, c'est l'idée de mettre à disposition des vélos électriques pour des personnes qui ont soit perdu leur permis de conduire ou ont des difficultés pour se déplacer, pour aller à leur travail, que ce soit des travaux saisonniers ou un travail quotidien. Et donc là, le commerçant gère un stock de vélos qui est mis à disposition par le PETR Midi-Quercy pour ces usagers-là.
Alors, avant de connaître un petit peu les échéances, le calendrier, j'imagine qu'il y a une contrepartie quand même pour le commerçant. Il n'a pas que ça à faire de chercher des billets de train pour les usagers qui seraient de passage dans un bureau de presse ou dans une jardinerie, je dis n'importe quoi.
Alors ça fait partie de l'étude. L'étude a visé à avoir... Premier objectif de l'étude, c'est d'abord de savoir quel commerçant serait d'accord pour participer à cette démarche-là. Ensuite, quand on trouve un commerçant qui est d'accord pour participer, c'est de voir quel niveau de service il est capable de faire, soit pour des questions de temps ou des questions d'espace dans le magasin,
puisque
stocker 2 ou 3 vélos, c'est pas anodin non plus. Donc on a pu identifier comme ça sur le pays des commerçants qui étaient propices pour jouer le jeu à ce niveau-là. Et deuxième niveau, c'est de savoir s'ils voulaient forcément une contrepartie financière ou pas. Donc dans 99% des cas, la réponse a été à étudier. Donc ça fera partie d'une phase 2 ou 3 du processus.
Parce que là, donc, le diagnostic a été établi donc, pour favoriser la mobilité douce, alternative, la mobilité collaborative sur le pays. Donc là, tout de suite, on pense au réseau Pousse qui a déjà été mis en place, à des lignes de covoiturage, à ces parcs de vélos électriques, effectivement, au train, d'où la mise en place d'accompagnement pour venir chercher les billets.
Mais là, en fait, vous connaissez tous ces dispositifs. Oui. L'usager, des fois, il a un problème, il ne sait pas comment se rendre à la commune d'à côté. Et l'idée, c'est qu'avec le niveau 2 de service, donc au préalable, le pays va assurer une formation des commerçants pour les informer de tous les dispositifs. Réseau Pouce, quand on en parle, certains ne connaissent pas encore. Donc, c'est que le commerçant soit en capacité de proposer à l'usager un mode de déplacement ou une solution par rapport à la problématique qu'il rencontre.
On a des échéances, un calendrier, parce que là, on en est sur vraiment l'étude, le diagnostic, la préfiguration.
Donc, l'idéal, ça serait de mettre en place ces services assez rapidement. Pour le moment, il faut que nous, on s'organise à lancer des partenariats avec les commerces qui seraient prêts à se lancer, qui ont les capacités de développer un ou plusieurs niveaux de services.
Ceci est un appel, peut-être.
Voilà, c'est ça. Si les commerces nous écoutent et qu'ils sont prêts à se lancer, nous aussi, on est prêts à se lancer rapidement. Il faut que, on espère peut-être d'ici l'automne ou fin d'année développer des premiers niveaux de services avec des commerces partenaires. Mais pour le moment, le calendrier n'est pas encore bien défini.
L'idée surtout, c'est d'y aller pas à pas. Peut-être c'est quand même une grosse innovation, et pas que pour le Pays Midi-Quercy. Au niveau départemental, on n'a jamais eu cette démarche-là, même en Occitanie. Donc c'est vraiment de faire une nouvelle expérimentation et d'y aller peut-être avec quelques commerçants qui sont favorables. Et ce qu'on a vu dans l'étude, ce qui est important, c'est que les commerçants disent « on est prêt à jouer le jeu, il faudra très vite faire une évaluation, voir qu'est-ce qu'on améliore ou pas dans le système ». Et aujourd'hui, on parle de 3 niveaux de service. Peut-être qu'avec l'expérience, un 4e pourrait naître ou en disparaître.
Alors, si c'est gérer une plaquette de présentation des différentes alternatives en termes de mobilité qu'il y a sur le territoire, j'imagine que ça ne pose pas nécessairement de problème aux commerçants d'avoir des petites plaquettes comme ça en rayon.
Tout à fait.
Ça, non. Ça, oui. Tous, ils sont favorables. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les deux points, certains, c'est le niveau 2 qui a donc vraiment de renseigner, donner de l'information et accompagner l'usager. Beaucoup y étaient très favorables. Certains ont peur d'avoir un manque de temps. Donc on dit celui-là, on ne pourra pas l'assurer. Et au préalable, il va falloir cette formation qui va donner l'information aux commerçants de vraiment tous les dispositifs qui existent. Alors après, on va rassurer tout le monde peut-être. On parle d'un maillage et d'un réseau. J'ai bien dit en début de conversation que c'était un maillage secondaire. Il y aurait un mariage primaire, c'est-à-dire il y aurait des pôles principaux que constituent les France Services. Et on en a 5 sur le territoire, Caylus, Saint-Antonin, Caussade, Négropolis et Montclar-de-Quercy. Donc ça serait vraiment les relais des commerçants. Si un commerçant bute sur une question, il aura toujours la possibilité de se rapprocher des France Services pour compléter l'information qu'il dispense.
Maison France Service, qu'elles sont spécialisées dans tout ce qui est papier. Alors, je pense à la CAF, Pôle emploi, les cartes vitales et autres permis de conduire.
Oui, tout service administratif. Il y a de tout. Enfin, c'est très large, leur service, leur intervention. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur leurs compétences pour créer un premier maillage de conciergerie principale sur le territoire.
Qui est, pour le coup, bénévole, alors hein. On en est là, autant auprès des commerçants que la Maison France Service, c'est pas vraiment son travail d'aller chercher des billets de train pour les usagers.
Alors si, les France Service, ils sont là pour accompagner l'usager dans toutes ces démarches en ligne, ces démarches administratives, que ce soit la MSA, et la mobilité fait partie d'un des axes des France Service, comme l'économie, comme le social, enfin il y a beaucoup d'axes, on voit tout le temps l'aspect social des France Service. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels elles peuvent intervenir.
Oui, des personnes qui travaillent dans France Service renseignent pas mal d'habitants sur les offres de TAD qu'il y a sur le territoire ou de réseau Pouce, enfin toutes les offres de mobilité. C'est des questions qui sont récurrentes des habitants.
Et les commerçants, c'est vraiment pour être au plus proche, au plus près.
Tout à fait.
Des habitants. Alors les commerçants, certains en multiservice nous l'ont dit, ils le font déjà. Ils renseignent déjà, ils accompagnent déjà leurs clients qui n'arrivent pas à prendre son billet de train, par exemple. Donc. Le multiservice, il est multiservice, comme son nom l'indique. Donc, voilà.
C'est pour le parc de vélos électriques qu'on s'inquiète un petit peu plus.
Pourquoi on s'inquiète?
Il faut gérer. Enfin, moi, je veux dire, par exemple, imaginons que je tiens une boutique, un bureau de tabac, je n'ai pas nécessairement une pompe à vélo sur moi, ni une burette pour mettre de l'huile. Il y a toute une organisation en amont et en aval.
Le schéma imaginé aujourd'hui, c'est que le commerçant mettra à disposition de l'usager les vélos avec un système simple, donc copie de la carte d'identité, un chèque de caution, bien sûr, pour pas que le vélo parte dans la nature. Un formulaire très simple à remplir, style bouteille de gaz. Donc ça, ils ont été très, très précis là-dessus, un formalisme très assoupli. Par contre, toutes les questions de maintenance ou autres, le pays, je pense, Lisa nous le dira, s'appuierait sur un prestataire local pour justement venir faire la maintenance nécessaire que signalerait le commerçant.
Oui, ce sera à nous de monter un petit peu, enfin, de faire le montage de ce projet-là. Oui, il y aura toutes les questions de logistique, de maintenance à mettre en place et avec les commerces partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler rapidement pour pouvoir assurer le prêt au mieux, quoi.
Mais a priori, vous avez quand même un bon retour de la part des commerçants comme des habitants qui ont des besoins en termes de mobilité.
Tout, oui.
Alors les commerçants, moi j'étais très agréablement surpris parce qu'il faut préciser que le méthode d'enquête, c'était d'aller directement dans le commerce. On n'a pas fait d'enquête papier. Alors, première remarque, quand on parle de conciergerie de mobilité, ils vous regardent avec des grands yeux en disant « qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Donc les préconisations de l'étude, c'est justement de changer ce terme, de trouver un terme plus approprié, plus commun, du style point d'information mobilité ou déplacement. Enfin bon, ça, le pays... ça n'en parlera et trouvera peut-être un logo ou quelque chose de plus sympa ou simple à appréhender par tout le monde. Mais très vite, ils ont adhéré à la démarche, quoi. Très, très vite. Et c'est vrai qu'apparemment, il y a de vraies difficultés de mobilité pour des personnes sur le territoire. Les deux qui nous ont été révélés de manière récurrente, c'est la personne qui perd son permis de conduire. Hein. Ça arrive malheureusement. Et le deuxième, c'est aussi pour les jeunes, pour les travaux saisonniers agricoles.
À noter, donc, outre cette future conciergerie de mobilité rurale qui donc va changer de nom, la mise en place d'un réseau de covoiturage, c'était déjà un projet mené par le pays, par vous, Elisa Galtier, pour avec où là vous avez mandaté donc Illicov pour un diagnostic.
Oui, c'est ça, c'est la plateforme.
J'en profite.
Oui, oui, tout à fait. C'est d'actualité. Oui, on s'est engagé dans le programme à côté. Donc en 2000, enfin le PETR s'est engagé dans le programme à côté en 2020. Qui vise donc à développer des lignes de covoiturage via la plateforme de covoiturage Illicov. Donc l'an dernier, il y a eu une enquête covoiturage auprès des habitants pour qu'ils puissent voter pour leurs arrêts et lignes de covoiturage. Et donc suite à cette enquête, il y a un axe de covoiturage qui est ressorti, c'est l'axe Nègrepelisse-Montauban. Et donc là, on est toujours en train de travailler avec le Grand Montauban sur la définition des arrêts. Mais on espère voir le jour, enfin que les lignes voient le jour assez rapidement, fin avril, début mai, pour voilà, commencer à développer une solution de covoiturage sur le territoire. Suite aujourd'hui avec l'actualité, avec l'augmentation du coût du carburant, je pense que c'est un service qui sera apprécié, notamment pour les déplacements quotidiens.
Et sinon, en attendant donc cette conciergerie de mobilité rurale, on peut toujours se renseigner nous-mêmes en allant voir le PETR ou bien une maison de service au public à propos de ces réseaux pouces, de ces vélos électriques qui sont prêtés par le PETR. Donc réseau pouces, je redis, c'est du stop accompagné. On a aussi donc du covoiturage, des super balades randonnées qui permettent aussi de se déplacer. Bon, on le dit pas assez, ça, quand même.
Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez. On a aussi des boucles vélos aussi sur tout le territoire. Donc il y a pas mal de choses à faire.
Oui, d'autant que la mobilité, donc enjeu majeur sur ces territoires ruraux, dans ces périodes où effectivement l'essence, bon bah, ça coûte, et où écologiquement, c'est quand même un bon gros frein. La CCI, Mathieu Albert, donc responsable de développement économique pour la CCI, on va vous laisser le mot de la fin.
Non, mais moi j'encourage le pays à aller jusqu'au bout dans la démarche. Aux usagers, mais de voir que leur commerce de proximité, ce terme de proximité, il n'a jamais eu autant de valeur importante pour les personnes, parce que certes, on s'approvisionne, mais aussi on peut avoir des informations et avoir vraiment un accompagnement humain. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ça vaut tout l'or du monde.
Mathieu Albert pour la CCI, Lisa Galtier, chargée de mission mobilité pour le PETR Midi-Quercy. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
La suite de ce mag du PMI Quercy après la musique, on visite à Parizo chez la brasserie Baltringue, de la bière bio et locale.
Le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
De retour dans ce mec du pays Midi-Quercy avec Marie-Agnès Brandy, la chargée de mission alimentation et circuits courts, qui nous fait visiter la brasserie Baltringue dans le cadre de la chronique Les Circuits Courts. Bonjour.
Les Circuits Courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis allée voir la brasserie Le Baltringue à Parisot. Alors, en fait, elle est située entre Parisot et Cornusson, Verfeil, là, sur la route principale. Bonjour.
Bonjour. Moi, je m'appelle Julien Mignot, donc je suis un des fondateurs de la brasserie Baltringue à Parisot. Ma première passion était le bois, mais j'ai fait quelques créations en bois. Et après, pendant de longues années, j'ai travaillé dans le spectacle, théâtre de rue et le cirque aussi moderne en tant que technicien. D'où le nom de la brasserie qui s'appelle Baltringue, okay. Qui est en fait à l'origine les monteurs de chapiteaux, qui est devenu ensuite une insulte un peu péjorative du racisme donc envers les forains. Donc c'était des gens qui on peut pas avoir confiance. Et voilà, et ça s'est féminisé d'ailleurs parce que c'était un baltringue. Le plus souvent c'était des hommes qui montaient les chapiteaux et c'est devenu une baltringue.
Ok. Comment on fait la bière ?
Vous
y mettez quoi ?
Alors, pour avoir une appellation bière, il faut forcément du malt et du houblon. Ça, c'est les deux ingrédients obligés pour que ce soit de la bière. Il y a différents malts de toutes les couleurs, c'est une torréfaction de l'orge ou d'une céréale. Donc, il y a des malts plus colorés que d'autres, qui donnent des arômes plus différents. Le houblon, c'est pareil, il y a tellement de variétés différentes. Il y en a qui ont seulement aromatiques, seulement amérisants, les deux, des goûts de fruits différents, il y a des arômes vraiment multiples et variés. Donc ça, c'est vraiment une histoire de cuisine, c'est une histoire de goût. En faisant des essais, on cherche ce qui nous plaît et voilà. Puis on fait aussi tester autour pour voir si ça plaît. On peut vraiment mettre des fruits aussi, et voilà, des plantes aromatiques. Voilà. Il y a vraiment un panel large à faire. Et voilà, suffit de tester, en fait, comme dans la cuisine.
C'est en fonction des saisons alors aussi ce que vous mettez dedans ?
Aussi. On a une bière à la pomme avec un ami agriculteur qui fait du jus de pomme. Donc on va le récupérer, qui sort de la presse. Et effectivement, c'est des bières de saison. Mais il y a des bières avec des fruits de saison. Donc oui, il y a matière à faire quand même.
Ok. Et alors du coup, combien de temps ça prend à faire la bière ?
Alors, pour faire une bière, ça prend 6 heures à peu près. Mais après, il y a toute la fermentation qui est beaucoup plus longue, qui varie entre 15 et un mois, ou des maturations beaucoup plus longues. Créer le jus, le mou, est assez rapide. Bon, ça prend une demi-journée, mais après, oui, il y a de la maturation pour arriver à un résultat qu'on souhaite.
Et elle est bio, c'est ça, cette bière ?
Oui.
Tous les ingrédients.
Tous les ingrédients sont bio, oui. Oui, c'était une volonté, parce que nous, c'est notre mode de vie. Après, c'était aussi pour proposer une bière 100% bio. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'était qu'elle soit accessible. On ne souhaite pas que ce soit juste une élite qui puisse boire une bière bio. Souvent, ça peut être un peu cher. On dit que le bio, c'est cher. Nous, on essaie de tirer les prix le plus bas, donc de marger le moins, pour pouvoir rendre un produit accessible à tout le monde en bio. Voilà. Et des produits 100% bio. Et aussi européen. Donc on utilise du sucre bio européen, du houblon uniquement européen, pour éviter de traverser les océans pour pouvoir récupérer un produit, même qui soit bio. Bon, voilà, il y a du sucre de canne, mais nous on utilise du sucre de betterave bio, produit en France et en Allemagne. Voilà.
Au moins, si les transports sont coupés, un jour, on pourra continuer à boire de la bière.
Ouais, ça serait bien, ouais.
Le prix du gazole, on ne sait jamais.
Oui, oui.
Et alors, on les trouve où, ces bières ?
On les trouve bien sûr à la brasserie.
Directement, on peut venir n'importe
ouais,
quand.
On peut venir, on peut passer un petit coup de téléphone. On a un site internet où, où même on peut en réserver directement en ligne et puis venir les chercher quand on a envie, bien sûr, en disant quel jour on vient. Mais
le site internet, c'est
brasseriebaltringue.fr. Voilà. Ouais, tout attaché, brasseriebaltringue.fr. Oui, oui.
Donc, sur Facebook, hein, je crois aussi, on va pouvoir retrouver le lien.
Facebook, la brasserie aussi, sur Instagram également. Donc, soit la brasserie, passons par le biais du drive du site internet. Après, il y a beaucoup d'épiceries aux alentours de Pariso qui nous distribuent, avec qui on travaille et avec qui on a plaisir de travailler. C'est surtout les premiers qui nous distribuent. Donc, il y a Pariso, bien entendu, il y a Vidaillac, Et on est aussi sur le marché de Najac le dimanche matin.
Ok.
Voilà. Et voilà, donc il y en a jusque le 7 fonds, il y a des vivales, il y a quelques boutiques, 7 fonds, Varin, enfin tout autour de Pariso.
Ah oui, même bien autour, sur les 20-30 km autour, quoi.
Ouais.
Et vous me faites voir vite fait là,
bien sûr, ouais.
Allez. Et les gens, quand ils viennent, ils peuvent voir aussi.
Oui, si on n'est pas en train de brasser, bien sûr, ou d'embouteiller, mais bien sûr, on fait visiter avec plaisir.
Ok. Alors, c'est un petit bâtiment avec plein de bières. En bois, très joli. Et puis là, on arrive au fond, et c'est là qu'il y a les cuves. Trois cuves,
oui. Donc, il y a une cuve d'empattage, donc c'est là où on va faire infuser le malt à certaines températures, selon le sucre fermentable qu'on veut récolter. Une fois qu'il a été infusé, on récupère juste le mou. Donc l'idée, c'est de séparer la graine et la coque du malt et récupérer juste le jus sucré qu'on transfère dans la cuve d'ébullition. La troisième cuve est une cuve d'eau chaude, donc c'est pour rincer le maximum la drèche, donc la céréale infusée. Et une fois qu'on a filtré, parce que ça sert d'autofiltre, ça s'autofiltre la céréale, on la fait cuire, on la fait chauffer, donc on la porte à ébullition. Et c'est à ce moment-là qu'on introduit tout ce qui est houblon ou aromate, ou ça peut être des écorces d'orange, des graines, des épices, en fait.
C'est là le seuil de l'expérience.
C'est là où on dose et on suit notre recette à doser le houblon. Donc il y a différents moments où on peut mettre le houblon. Plus on le met tôt, plus ça va être un peu amer. Et moins on laisse longtemps, plus on aura des arômes. Ouais. Et une fois que ça a été, donc on a fini cette cuisson et on éteint. Et l'idée, c'est de refroidir le plus vite possible ce mou pour éviter la contamination. Donc on va le refroidir et le mettre en fût de fermentation où on va pouvoir mettre les levures et là laisser travailler la levure à fermenter la bière. Et voilà.
Bon, et puis bientôt sur le petit guide qui devrait être réédité en 2022 sur les produits du pays Midi-Quercy. Et alors sinon, il y a un truc très facile, si vous mettez sur le GPS Brasserie Baltringue, et voilà, le GPS vous amène, c'est nickel. Et vous êtes ouvert à peu près tout le temps?
Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche. Le samedi, c'est plutôt sur rendez-vous, on peut se rendre dispo. Et c'est en fin de journée, donc quand les gens sont plus libres, c'est souvent on est ouvert de 16h à 20h.
Oui, c'est parfait.
Donc voilà, ça laisse. On peut trouver notre numéro, on peut nous envoyer un petit texto, un petit mail, un signe de fumée pour nous dire on va passer, il n'y a aucun souci, on répondra. Et on habite sur le lieu, donc c'est aussi un avantage de pouvoir être disponible assez souvent.
Ah, c'est facile, si vous passez par là, hop, un petit coup de frein à main, et puis vous aurez une bière. Merci beaucoup, Julien.
Merci à vous.
Et bien, à bientôt.
À bientôt.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.